Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Thomas Porte, porte-parole de Sandrine Rousseau, membre de la direction de Génération, président de l'Observatoire national de l'extrême droite et auteur du livre « Au cœur de la haine » aux éditions Arcane 17. Bonsoir.
Bonjour.
Alors Thomas Porte, d'abord, pourquoi les écologistes organisent-ils une primaire pour l'élection présidentielle? Est-ce qu'il s'agit d'une primaire ouverte et comment faire pour voter à ce scrutin?
Vous avez raison de le rappeler, c'est une primaire ouverte, donc elle est ouverte à toutes les personnes qui veulent participer à cette élection, qui est très importante puisqu'elle va désigner le futur candidat ou la future candidate à l'élection présidentielle. Pour voter, c'est très simple, il faut se rendre sur le site lesécologistes.fr et participer à hauteur de 2 euros pour pouvoir choisir la candidate ou le candidat qui portera des propositions pour faire de l'écologie une priorité. Donc c'est important, il faut s'inscrire. J'invite vraiment vos auditrices et auditeurs à participer massivement à cette élection qui est un moment démocratique important du pays quand on sait que la question écolo est aujourd'hui au cœur des priorités, que la lutte contre le réchauffement climatique est une des préoccupations majeur de milliers de citoyens. Donc allez choisir votre candidate et votre candidat pour cette élection présidentielle au sein de cette primaire.
Alors vous soutenez Sandrine Rousseau, universitaire, ancienne porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Pour quelle raison Sandrine Rousseau devrait-elle être la candidate des écologistes? Qu'est-ce qui la différencie de ses concurrents?
Je crois qu'elle porte un véritable projet qui est à la fois celui de la radicalité écologique et celui de la justice sociale. C'est-à-dire que dans son programme politique et dans ses propositions, elle lit les deux. Et c'est pour ça que c'est très important et c'est pour ça que j'ai fait le choix de la soutenir. Car on sait qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de lutte efficace contre le réchauffement climatique si on ne résorbe pas les inégalités, si on ne sort pas d'un libéralisme qui ne se nourrit que de croissance, que d'accumulation de profits, que de logique de prédation qui épuise la terre, qui épuise les vies et qui conduit à la catastrophe dans laquelle on est. Donc c'est pour ça que Sandrine Rousseau est pour moi la candidate idéale. C'est pour ça que je l'ai rejoint, que j'ai accepté d'être son porte-parole. Parce qu'elle dit une chose très forte, elle dit nous avons 5 ans pour changer les choses. Comme l'a expliqué le rapport du GIEC. Donc, il faudra des décisions radicales. Et la radicalité, c'est pas un gros mot, c'est simplement d'assumer, de prendre des décisions concrètes qui vont pas plaire à tout le monde, mais qui vont permettre de préserver la planète pour que nos enfants puissent continuer à grandir dans un cadre de vie décent, respirable, et qu'on sorte de ces logiques infernales.
Quand Sandrine Rousseau parle de radicalité, vous dites que certaines mesures ne plairaient pas à tout le monde. Est-ce que les Français, d'une manière générale, risquent de payer le prix fort de ces mesures? On parle d'écologie punitive, je pense notamment aux taxes qu'on veut imposer. Est-ce que c'est ça qui risque de ne pas plaire à tout le monde, ou bien vous pensez plutôt à l'industrie, notamment l'industrie du plastique, par exemple?
Effectivement, je pense notamment à ce qu'on désigne comme les lobbies qui aujourd'hui font la pluie et le beau temps dans les couloirs des ministères et au sein du gouvernement, parce qu'aujourd'hui, en vérité, les Françaises et les Français, ils paient déjà la note, puisqu'ils subissent le réchauffement climatique. On a quasiment 50 000 personnes par an qui décèdent prématurément des causes de la pollution. On voit les effets dévastateurs, comme on a pu le voir avec les inondations dans la vallée du Roya, les incendies cet été. Donc la facture et la note, elle est déjà là sur la table. Quand je dis ça ne plaira pas à tout le monde, il faudra assumer, par exemple, quand on dit sortir des pesticides, dans 5 ans, il faudra assumer d'être face à la FNSEA, face au lobby de l'agro-industrie, qui ne poursuivent pas les mêmes logiques, mais qui défendent des intérêts individuels, alors que nous, on priorise l'intérêt général. Et c'est pas de l'écologie punitive, c'est simplement mettre un frein aujourd'hui à des logiques qui tuent à longueur d'année. Et la majorité des Françaises et des Français, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, sont favorables à engager des décisions pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est ça qu'on dit aujourd'hui. Il faut sortir, par exemple, du modèle tout routier où on jette des millions de camions chaque année sur les routes et prioriser le train. Mais ça ne veut pas dire laisser, par exemple, les salariés de la route sur le côté. Ça veut dire avoir un grand plan de formation pour les accompagner à de nouveaux métiers. Il n'est pas question non plus, si on réduit les liaisons aériennes, là non plus de supprimer des emplois. Il faudra former à des nouveaux métiers. Je crois qu'on a un projet global qui inclut tout le monde, mais effectivement qui est en contradiction avec les choix des multinationales et des lobbies qui, eux, ne réfléchissent que par une accumulation de profits, de bénéfices ou de versements de dividendes et qui sont prêts à saccager la planète, y compris à la mettre en danger pour les années à venir, simplement pour arriver à avoir de plus en plus d'argent. Nous, on veut mettre un coup d'arrêt très clair à cela.
Comment on passe d'un modèle tout voiture à un modèle où les transports en commun seraient très importants?
Je crois que la première chose que j'ai envie de souligner, c'est qu'il faut pas culpabiliser celles et ceux qui aujourd'hui utilisent la voiture, et on l'avait vu avec les gilets jaunes par exemple, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de transport. Et la logique d'un système capitaliste, c'est de renvoyer à la responsabilité individuelle pour ne pas remettre en cause le cadre dans lequel on évolue. Évidemment, si on veut sortir aujourd'hui du modèle tout voiture tel qu'il est construit en France, où on a des déserts de transport public en commun dans les territoires, il faudra, par exemple, redensifier le réseau ferroviaire, réouvrir des lignes, relancer les trains de proximité. Il faudra faire des pistes cyclables, créer de l'intermodalité, mettre des transports en commun partout pour permettre à chacune et chacun, s'ils veulent se déplacer, de choisir un modèle qui est à la fois moins cher, qui est public et qui est beaucoup moins polluant. Évidemment, on ne peut pas demander à des gens de supprimer leur utilisation de la voiture quand vous n'avez pas d'alternative à côté. Et c'est aussi pour ça que Sandrine Rousseau, elle porte par exemple le fait de sortir de ce qui s'est fait avec la SNCF et de revenir en arrière, c'est-à-dire d'annuler la privatisation pour en faire un grand service public où on aura des ouvertures de lignes partout. Il y a quand même 90% des Françaises et des Français qui vivent aujourd'hui à moins de 10 km d'une gare dans le pays. Donc on a les moyens d'avoir un tissage et un maillage territorial de proximité de transport qui permettent à chacune et chacun de prendre des transports en commun non polluants. Et je crois que quand vous avez des moyens de proximité comme le train, les gens le prennent parce qu'ils sont aussi conscients des enjeux et ils ne sont pas là pour tuer la planète, ils ont envie de se déplacer autrement. Simplement, il faut créer les conditions de permettre à ces gens-là de sortir aujourd'hui du tout voiture tel qu'il a été institué depuis des années.
Et donc, il faut que le train soit moins cher que l'avion. Aujourd'hui, ça n'est pas toujours le cas.
Évidemment, il y a une véritable bataille, vous avez raison, sur la tarification SNCF, puisque historiquement, la SNCF pratiquait ce qu'on appelait le tarif au kilomètre. C'est-à-dire que vous aviez un prix pour un kilomètre et c'était le même que vous preniez un TER, un TGV, un train intercité. Ça ne changeait pas selon des horaires de pointe ou des horaires creuses. Il y a aussi une véritable bataille à mener sur la question du prix. Mais il y a aussi des coûts externes qui sont pas pris en compte. Il y a des taxes sur le gasoil qui sont pas payées ou dont les compagnies aériennes sont exonérées. Donc il y a tout ça à réfléchir. Mais effectivement, il y a à la fois un nouveau réseau à améliorer, à développer, et il y a à rendre financièrement accessible pour celles et ceux qui ont des moyens financiers contraints, qui n'ont pas des salaires élevés, ils puissent prendre ce transport en commun là et que le prix ne soit pas un frein pour eux.
Aujourd'hui, la plupart des candidats, y compris les candidats de droite, se veulent écologistes. Pour vous, Thomas Porte, aujourd'hui, le sens de l'histoire, c'est d'avoir une présidente issue du mouvement écologiste comme Sandrine Rousseau.
Je crois que, évidemment, aujourd'hui, on entend écologie dans la bouche de tous les candidats. On sent bien que c'est dans l'air du temps et que la question écolo, elle est incontournable. Mais Sandrine Rousseau, elle milite et elle se bat pour ces questions depuis des années. Et je crois qu'on peut au moins reconnaître aux écologistes d'avoir mis sur la table ce sujet, l'avoir porté il y a des dizaines d'années alors que c'était minoritaire dans la société, qu'on n'en parlait pas ou qu'on balayait ça d'un revers de main en disant vous êtes des gens qui racontaient n'importe quoi et la planète ne va jamais périr, il n'y a pas de réchauffement climatique. Les alertes lancées par le GIEC depuis des années sont aujourd'hui une réalité. Et je crois que oui, si on veut avoir une politique écologique ambitieuse, qui intègre tout le monde, qui permet de sauver la planète, qui réduise les inégalités, il faut un candidat ou une candidate qui soit issu, j'ai envie de dire, de l'écologie politique traditionnelle. Et Sandrine Rousseau, elle s'est toujours inscrite dans cette écologie, à la fois radicale, mais aussi de justice sociale, parce qu'il faut lier les deux.
Vous êtes membre de la direction de Génération, le parti créé par Benoît Hamon après la dernière élection présidentielle. Pourquoi Benoît Hamon ne participe-t-il pas à ces primaires écologistes? Quels sont les éléments de son programme de 2017 qui ont été repris par Sandrine Rousseau? Et je précise que d'autres membres de Génération appellent à voter pour d'autres candidats qu'elle.
Oui, évidemment, Génération a fait le choix de ne pas présenter de candidats. Et c'est cohérent avec la ligne politique qu'on porte et celle que Benoît Hamon porte. C'est-à-dire que nous, on a toujours considéré que la victoire de la gauche et des écologistes, elle passait par la question du rassemblement. Et il nous paraissait, nous, inutile d'ajouter une candidature supplémentaire à toutes celles qui sont déjà malheureusement sur la table, alors qu'on sait que la situation politique de la gauche, elle est particulièrement préoccupante. Vous parlez des éléments dans le programme de Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, elle porte par exemple la mise en place d'un revenu d'existence pour toutes les personnes qui sont âgées de 18 ans et qui sera de 850 € par mois pour une personne sans revenu, avec 300 € par mois pour des enfants à charge. Elle reprend des propositions sur la démocratie, sur la nouvelle république, sur la question des services publics aussi. Il y a beaucoup d'éléments du programme de Benoît Hamon lors de sa dernière candidature à l'élection présidentielle qui sont aujourd'hui dans le programme de Sandrine Rousseau. Et véritablement, si on n'a pas présenté de candidat, c'est surtout pour ne pas ajouter de la division à la division, car aujourd'hui on sait que c'est un facteur qui est extrêmement préoccupant et qui peut conduire à une défaite de la gauche, malheureusement, aux élections.
Thomas Porte, est-ce qu'une présidente écologiste pourra changer la donne sur des questions comme le plastique, le transport aérien, le nucléaire, alors que la plupart de nos règles et de nos lois viennent de l'Union européenne ?
Ben, vous avez raison, c'est un véritable sujet, parce que si demain, je l'espère, Sandrine Rousseau est élue présidente de la République sur le programme et le projet qu'elle va présenter aux Françaises et aux Français, il faudra qu'on se pose dès le lendemain de notre élection pour dire comment on va appliquer ce programme. Et effectivement, il faudra assumer là aussi une conflictualité avec l'Europe et renégocier les traités et refuser d'appliquer certaines règles. On parle de désobéissance. L'Allemagne, par exemple, on le dit pas assez, mais désobéit sur certains sujets quand ça ne lui plaît pas. Effectivement, il faudra assumer d'avoir des décisions radicales et de rupture, y compris avec l'Union européenne. Je parle pas de sortie de l'Union européenne, mais il faudra accepter de dire qu'aujourd'hui, on a été élu sur un programme et que nous appliquons ce programme, y compris s'il est en contradiction avec les règles aujourd'hui dictées par l'Union européenne. Mais vous savez, c'est des rapports de force. La France, elle pèse énormément dans l'Union européenne. Parce qu'on a tous en tête l'histoire à l'époque de la Grèce, où le peuple avait fait un choix démocratique qui avait été enterré de manière honteuse parce qu'on avait appelé à l'époque la Troïka. Mais s'il y avait eu plusieurs pays qui étaient montés au créneau, dont la France, qui s'était à l'époque tue pour aider le peuple grec, cela aurait été différent. Donc effectivement, il faudra mener le combat au sein du pays, mais aussi au sein de l'Union européenne, pour faire respecter le programme pour lequel on a été élu.
Thomas Porte, Sandrine Rousseau se veut éco-féministe. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?
Cela signifie qu'il faut lier les questions féministes et les questions écologiques, et que les femmes, elles sont aujourd'hui les premières victimes de la crise climatique, avec des logements insalubres, avec des petits boulots, avec toutes les externalités de la crise écologique. C'est les femmes qui le subissent en premier, et on a parlé beaucoup de la prédation, de l'utilisation des corps des femmes, des inégalités, de la stigmatisation et des propos sexistes. Et nous, on met dans la même bataille les questions féministes et les questions écolo. Donc c'est Sandrine Rousseau qui porte cette question de manière très forte, avec une autre personne qui est aussi porte-parole de Sandrine Rousseau avec moi, Solène Ducréteau, qui est une véritable experte sur ces questions et qui amène vraiment dans le débat politique des propositions qui aujourd'hui manquent cruellement chez les autres candidats et candidates.
Thomas Porte, Sandrine Rousseau peut séduire l'électorat écologiste et gagner cette primaire, mais quelqu'un comme Yannick Jadot paraît plus compatible avec les électeurs du Parti Socialiste, par exemple. Comment rassembler les Français de gauche, mais peut-être au-delà, et pas seulement les écologistes ?
Vous avez raison, la véritable question, c'est au lendemain de la victoire de la primaire, qui est une étape de l'élection présidentielle, c'est comment on crée les conditions d'un rassemblement, d'une adhésion large et majoritaire pour faire en sorte qu'on puisse gagner l'élection présidentielle et gouverner le pays et changer la vie de millions d'habitants. Je crois que vous avez parlé de Yannick Jadot. Il s'adresse à effectivement souvent à une partie des électeurs du Parti Socialiste, avec des propositions qui se retrouvent souvent dans celles du Parti Socialiste. Sandrine Rousseau, elle a un programme qui est large et qui est en capacité de rassembler toutes celles et ceux qui se retrouvent dans à la fois l'urgence écolo et l'urgence sociale qui aujourd'hui mine le pays, font qu'il y ait des situations inacceptables où on a quand même, depuis le début du mois, des chiffres où on a les 40 patrons les plus riches de France qui vont toucher quasiment 5 millions d'euros de salaire, une augmentation de 40%, alors que le SMIC est gelé depuis le début du quinquennat Macron. On a une sortie du ministre Blanquer qui stigmatise les familles qui ont touché l'allocation rentrée en faisant croire qu'elles achètent des écrans plats, alors que non, elles l'utilisent pour des fournitures scolaires parce qu'elles sont dans une grande difficulté. Et le projet politique de Sandrine Rousseau, je crois qu'il a la capacité de rassembler aujourd'hui un très grand nombre de Françaises et de Français, et largement au-delà des rangs d'Europe Écologie Les Verts. C'est vraiment notre ambition que de rassembler toutes celles et ceux qui veulent vraiment changer le pays. Pas simplement des mots, mais des actes concrets.
Aujourd'hui, les chances de voir la gauche remporter l'élection présidentielle paraissent minces, si l'on en croit les sondages. Jean-Luc Mélenchon a dit ce week-end que l'abstention allait profiter à Emmanuel Macron. Le candidat de la France insoumise veut mobiliser les quartiers populaires. C'est aussi le souhait des écologistes et en particulier de Sandrine Rousseau.
Je crois qu'il y a deux éléments dans ce que vous avez dit. Bon, la question des sondages, vous savez, on a vu ce que ça a donné aux élections régionales où on nous annonçait une extrême droite extrêmement forte. Et en vérité, elle a été, même si elle est toujours trop haute, elle a quand même subi une défaite électorale et personne n'avait imaginé cette situation politique. Et la priorité, effectivement, c'est la question des abstentionnistes. Et là, je partage ce que dit Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que les quartiers populaires, quand ils se déplacent aux urnes, ils votent massivement pour la gauche et les écologistes. Dans toutes les enquêtes, dans toutes les études, si vous analysez toutes les élections historiques, les gens des quartiers populaires qui subissent les inégalités, qui subissent le réchauffement climatique, parce qu'on a quand même, on multiplie, vous avez parlé de l'aviation tout à l'heure, mais les rapports Oxfam donnent à voir comment les riches polluent et comment ce sont celles et ceux qui sont les moins riches qui subissent ces pollutions. Donc maintenant, c'est comment on va chercher ces gens-là, de façon très concrète, faire du porte-à-porte, aller au plus près des immeubles, au pied de chaque tour HLM, discuter avec les gens, parler des propositions et co-construire avec eux ce qu'on a envie de faire demain, parce qu'il ne s'agit pas de leur donner un programme clé en main, même si nous avons des propositions. Ces gens-là sont aussi des experts parce qu'ils ont une vie quotidienne, ils ont une expertise, ils ont des solutions qui sont faites pour améliorer leur quotidien. Donc, il faut aller à la rencontre, discuter avec eux, et c'est ce que nous faisons quotidiennement avec Sandrine Rousseau, que nous allons faire dans les semaines à venir, aller voir ces gens et expliquer l'enjeu d'une élection et leur expliquer que se déplacer, voter pour changer leur vie et ne laisser plus les autres décider à votre place.
Thomas Porte, vous êtes un observateur attentif de l'extrême droite. Éric Zemmour s'apprête à lancer sa candidature à l'élection présidentielle. Pour l'instant, il anime une émission chaque soir sur CNews. Est-ce qu'il vous inquiète et est-ce qu'être présent à la télévision tous les jours depuis plus d'un an fausse les règles du jeu démocratique ?
Évidemment que ça fausse les règles du jeu démocratique, puisque sa candidature, elle ne m'inquiète pas, je la trouve extrêmement dangereuse au regard de ce que Éric Zemmour dit. Et c'est quand même, moi je suis toujours surpris qu'on laisse tous les soirs à la télé un homme qui a été, je le rappelle, en 2011 condamné pour provocation à la discrimination raciale. 2018, provocation à la haine religieuse envers les musulmans. Et 2020, injure et provocation à la haine envers les musulmans. Et souvent on nous dit, mais attendez, vous êtes pour la censure? Non, on est évidemment pour le cadre démocratique et le débat, mais là on parle de quelqu'un qui a tenu des propos racistes, et le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Et chaque soir, on lui donne l'antenne avec des milliers de téléspectateurs. Donc je crois que c'est pas sérieux, et les chaînes publiques, les chaînes qui l'invitent, y compris privées, et notamment, je pense, à CNews et Europe 1, qui appartiennent aujourd'hui à la même personne de Vincent Bolloré, qui porte un véritable projet d'extrême droite, ont une responsabilité très forte dans la montée des idées de haine et de tension dans la société. Parce que quand on donne la parole tous les soirs à une personne qui ne rêve que d'attiser la haine, forcément, on se retrouve avec une société où la tension explose. Et je crois que c'est pas sérieux. Et moi, je demande à ce que Éric Zemmour ne soit plus à l'antenne. On ne peut pas laisser un homme qui a été condamné pour de tels propos continuer à prendre la parole publiquement tous les soirs. C'est irresponsable.
Est-ce que vous avez le sentiment que l'extrême droite est en train de gagner une victoire culturelle en étant au centre du jeu politique aujourd'hui? J'ai entendu un éditorialiste qui disait qu'il y avait deux sujets actuellement. C'était d'un côté l'écologie, de l'autre l'identité.
Oui, c'est particulièrement préoccupant, et je crois que Emmanuel Macron a aussi une responsabilité dans le climat dans lequel on est, dans la place qu'aujourd'hui occupe l'extrême droite, parce qu'on avait quand même vécu un quinquennat macroniste où il se présentait en 2017 comme le rempart à l'extrême droite. On a vu un président qui a réhabilité Maurras et Pétain. On a vu un ministre de l'Intérieur qui a parlé de Madame Le Pen en disant qu'elle était trop molle. L'ensemble des ministres du gouvernement reprennent la rhétorique de l'extrême droite comme l'islamo-gauchisme ou les réunions non mixtes, y compris appliquent des propositions que l'extrême droite aurait pu appliquer, et je pense évidemment à la loi séparatisme qui stigmatise les musulmans de manière absolument scandaleuse, plus des médias qui aujourd'hui ne fonctionnent que sur le buzz, ne répondent que à l'agenda fixé par l'extrême droite, où on nous parle à longueur de journée de burkini, de violence dans les quartiers. Alors quand vous allez sur le terrain, les gens ils vous parlent pas de ça, ils vous parlent de « je n'ai pas de logement », mon salaire est trop faible, je n'arrive pas à manger, comment mes enfants vont aller dans l'université alors qu'il n'y a pas de place. Et tous ces sujets sociaux, ils sont aujourd'hui mis sous le tapis, et on parle à longueur de journée des mêmes éléments, on tourne en boucle sur les mêmes sujets. Donc c'est véritablement préoccupant, parce que quand vous donnez la parole à des gens là toute la journée, quand des ministres reprennent leurs propos, ça aussi ça les légitime, ça les banalise, ça les normalise, et ça donne une place et une audience exponentielle à l'extrême droite, et ça facilite la diffusion de ces idées. Donc oui, c'est un problème, et aujourd'hui il faut mener une véritable bataille des idées pour déconstruire ce que dit l'extrême droite, et créer des solutions alternatives et offrir des horizons, parce que c'est aussi ça qui manque, c'est offrir une alternative.
Merci Thomas Porte. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Sandrine Rousseau, membre de la direction de Génération, président de l'Observatoire national de l'extrême droite et auteur du livre « Au cœur de la haine » aux éditions Arcane 17. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.